sujet de discussion.
Présentation Sonia Nzian.
Bienvenue à votre espace de discussion aujourd'hui, axé sur la Journée mondiale de la radio, célébrée chaque année le 13 février. La 12e édition se brode cette année autour de Radio et Paix, un thème qui, à bien des égards, touche notre pays, la Côte d'Ivoire. Raison de plus pour axer notre sujet de discussion sur la radio comme instrument au service de la paix. Et pour en parler, Sangaré Yoro, bonjour.
Bonjour, Léa.
À la base, vous êtes homme de médias. Alors, pour être honnête, si on veut citer votre parcours là maintenant, on n'en finira pas, mais on va retenir que vous êtes homme de médias, par ailleurs chargé de cours en management des équipes et management éditorial à Kalan Academy. C'est bien cela ?
C'est bien cela.
D'accord. Précisons que c'est une plateforme en ligne des responsables de radios communautaires d'Afrique. Merci. Avec vous sur notre plateau, Diomandé Anza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Radio Yopougon, mais également membre du bureau exécutif de l'URPCI.
L'Union des radios de proximité.
De Côte d'Ivoire. Gérard Guédébé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en stratégie, médias et communication. Merci en tout cas à tous pour votre présence. Comme dit Alantam, à la faveur de la Journée mondiale de la radio, nous parlons aujourd'hui de la radio comme instrument au service de la paix. Mais déjà, c'est quoi la radio ? On va y aller avec vous, Diomandé Anza, que j'ai juste en face de moi.
Mais, merci beaucoup, Sonia.
Je vous en prie.
Je dis que la radio, c'est, avant tout, c'est un média, mais qui est facile d'accès. C'est un puissant média, mais qui est facile d'accès pour la population. Contrairement aux autres médias, télévision et autres presse écrite, la radio est très facile d'accès. Parce que aujourd'hui, on peut l'écouter sur pratiquement plusieurs plateformes. On n'a pas forcément besoin d'un poste transistor pour écouter la radio. Donc, c'est un média qui est très facile d'accès.
D'accord. Sangaré Yoro, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, pour ajouter à ce que M. Diomandé vient de dire, c'est que c'est d'abord un outil de communication au service d'une communauté. Et sa particularité aussi, c'est de pouvoir toucher une grande masse dans un laps de temps très court. Donc, en fonction de ses capacités techniques, en fonction de sa capacité à couvrir une zone plus ou moins grande, on a une population tout aussi grande qui est exposée aux messages, aux informations qui sont diffusées. Donc cela permet de toucher les populations, de les sensibiliser, de les divertir, de les informer. Voilà.
D'accord.
C'est ce que je voudrais ajouter.
Alors, sur le rôle de la radio, justement, Gérard Guédébé.
Alors, je voudrais dire que la radio, comme l'a dit M. Sangaré tout à l'heure, son rôle, c'est beaucoup plus donner une information, je dirais, utile et permettre aux populations qui l'écoutent d'y puiser des connaissances, d'y prendre des éléments utiles pour leur améliorer leurs conditions d'existence et de vie. Je veux dire que la radio, il faut dire, a été, je peux, à mon avis, hein, je crois que c'est un média majeur, parce que quand vous avez vu à travers les siècles les guerres et les paix, la plupart du temps se sont faits à travers un microphone et un homme qui parle à une population à travers une radio, pour dire que la radio a un rôle majeur dans nos sociétés. On ne peut pas l'occulter aujourd'hui. Il est vrai, le directeur l'a mentionné, avec l'influence du numérique aujourd'hui, on tend à penser que la radio est en train de perdre un peu de son influence, mais je ne crois pas. Je trouve que ça a un rôle majeur dans notre société, et la plupart du temps, lorsque on tend à changer des comportements, à impulser une certaine dynamique dans nos sociétés, on se refait nécessairement à la radio. Il n'y a pas d'expert aujourd'hui qui va faire une stratégie de communication d'un projet, d'un programme, et ne pas mettre la radio au top. Donc, il est systématiquement entendu qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire sans la radio. Il y a des défis, certainement, dont on parlera.
Absolument. La radio, vous l'avez dit, a un rôle majeur dans notre société. Quels sont justement les différents types de radios? On sait qu'il existe des radios commerciales, confessionnelles et tout, mais bon, pour éclairer un peu la lanterne de nos auditeurs, comme on a des spécialistes sur le plateau, on va en profiter. Oui, allez-y, demandez.
Les radios, nous avons les radios communautaires ou les radios associatives. Nous avons les radios commerciales. Nous avons des radios... En Côte d'Ivoire, nous avons la radio nationale, par exemple. Il y a des radios internationales. Chacune de ces radios a sa cible. Dans le gros lot des radios communautaires, nous avons les radios de collectivité, qui est une particularité presque à la Côte d'Ivoire, où des collectivités ont été autorisées à porter des fréquences radio. Des mairies, des conseils régionaux, bon, qui ont des fréquences radio. C'est une particularité à la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons des radios-écoles, voilà, c'est le dit, voilà, des radios-écoles. On a tous ces types de médias qui forment la grande famille des radios.
D'accord. Et justement, quels sont les, on va dire... Oui, allez-y.
Les radios confessionnelles, évidemment.
Les radios confessionnelles, mm-hmm. Et puis peut-être la radio comme celle qui nous reçoit, qui est beaucoup plus institutionnelle. Voilà, mm-hmm. Institutionnelle. Et sans oublier aussi que nous sommes exposés aussi aux ondes des radios internationales que l'on peut capter ici. Voilà.
Et il y a aussi les radios qui, je ne sais pas dans quelle catégorie on va les classer, mais par exemple les radios qui sont aussi animées par dans nos institutions académiques. Vous voyez, à l'université, dans les écoles de journalisme, il y a des radios qui...
Par exemple, à ISTC, on a
une radio, voilà, qui a une équipe qui fonctionne comme une radio. Et il est vrai que ce sont des radios-écoles, mm-hmm. certes, mais elles déploient des programmes et diffusent de l'information. Et moi, je pense qu'à un certain niveau, même dans la catégorisation, on doit pouvoir leur trouver, je vais dire, un rôle précis. Et pourquoi pas, et davantage encadré, parce que c'est vrai que sous le coup de la radio-école, on peut se permettre certaines choses, mais il est clair qu'elles sont écoutées par les populations, pas seulement les étudiants. Donc, il y a certainement...
Alors, justement, toutes ces radios ont en commun de diffuser des informations, mais quelles sont les nuances au niveau, justement, on va prendre quelques exemples, hein, qu'est-ce qui différencie une radio communautaire d'une radio institutionnelle ou confessionnelle et tout? Parce que c'est vrai, les auditeurs, les populations sont face à, on va dire, plusieurs types de radios, mais ne savent pas exactement les missions de ces radios. Diomande Nza, vous voulez prendre la parole?
La radio communautaire, il faut dire, c'est d'abord l'affaire d'une communauté. C'est une communauté qui s'est regroupée et qui a décidé de porter cet instrument, contrairement aux autres médias. Et cette radio communautaire a un objectif bien précis. Cette radio vulgarise les intérêts de cette communauté. La radio est faite pour et par ces communautés-là. Contrairement à une radio commerciale qui a un but lucratif, la radio communautaire n'a forcément pas un but lucratif. Donc, il y a cette nuance-là qu'on peut faire.
Je ne sais pas si...
Oui, Gérard
Guédébé. Il faut dire que cette catégorisation par genre a été instituée un peu pour renforcer la nature de certaines radios, comme on l'a dit. Hein, c'est-à-dire la communauté, elle se regroupe autour d'un projet de radio et met en place une radio pour d'abord la servir, d'accord? Servir ses besoins en information, lui permettre d'avoir des informations, je veux dire basiques, je veux dire questions de santé, question d'éducation, question d'assainissement local. Donc, les radios communautaires, quand vous regardez un petit peu la grille, c'est beaucoup plus axé sur ce qui est, je vais dire, et d'intérêt pour la communauté qu'elle dessert.
C'est un peu le cas de Radio Yopougon.
Exactement. Vous y verrez qu'à chaque fois, on pose la question qui se pose aux populations qui vivent dans
leur
cette commune. Voilà. Et donc, mais il faut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, donc, la question de l'information locale est beaucoup plus attribuée à ces radios de proximité confessionnelles. Vous comprenez un peu, il y a une ligne religieuse qui veut ne serait-ce que promouvoir une certaine ligne de pensée et de voir les choses. Et puis, c'est un peu le rôle. Mais aujourd'hui, ce que j'allais dire pour finir, c'est qu'on note un peu que ces gens-là se mélangent un peu. Il n'y a pas une rectitude en termes de... on voit des radios commerciales en train de faire les choses que devrait faire une radio communautaire et parfois vice-versa. Et ça fausse un peu la nature
conférée à cette radio. Voilà.
Oui, mais bon, je peux dire que c'est dans l'évolution des temps. Peut-être que cette catégorisation un peu ancienne que nous avons connue est en train d'être dépassée à l'ère du temps. Et puis, bon, il va falloir voir les choses autrement. Voilà.
D'accord. Alors, rappelons que le thème de la 12e édition de la célébration de la Journée mondiale de la radio est Radio et Paix. Et justement, quelle réalité en Côte d'Ivoire de la radio comme instrument au service de la paix, Sangari Yoro.
Merci. L'histoire de la radio en Côte d'Ivoire est marquée par l'avènement ou l'ouverture du paysage médiatique. Avec l'avènement des radios de proximité qu'on a connues. Ce qui a permis de voir une dissémination de ces radios-là sur toute l'étendue du territoire. De sorte que à ces radios, dans leur mission de promotion de la culture locale, des réalités économiques, du vécu des populations, il y a une mission, on va dire, tacite de promotion de paix par la cohésion entre les communautés. Si ailleurs la radio s'est confondue quelque peu ou a eu une histoire liée à certaines situations de crise où la radio a été indexée comme un facteur ayant contribué à mettre à mal la cohésion sociale ou même la paix, on pourrait dire que ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire, même si par moments il y a quelques échauffourées, quelques interventions dans le conflit. La radio est très souvent utilisée, non seulement pour prôner des messages de paix, des attitudes ou des comportements de paix, mais en plus, toutes les fois qu'il y a eu besoin de parler de cohésion sociale en Côte d'Ivoire, un des acteurs majeurs a été la radio. Les radios de proximité, les radios confessionnelles, tout type de radio dans ces moments-là, ces radios ont été largement sollicitées. Alors, donc juste pour résumer, la radio est un acteur majeur. Si on veut voir la paix, c'est un acteur majeur également pour pouvoir promener toutes ces valeurs qui permettent aux communautés de créer cette cohésion à laquelle on aspire, de la maintenir, de l'entretenir.
D'accord. Diomandé Anza, au niveau de Radio Yopougon, par rapport à la promotion de la paix, de la cohésion sociale, qu'est-ce qui est fait?
Oui, il faut dire que la Radio Yopougon, c'est la radio de la mairie de Yopougon. Et Yopougon, c'est la plus grande commune de l'Afrique de l'Ouest, pas seulement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest. En plus d'être la plus grande commune, mais elle est cosmopolite. Il y a beaucoup de communautés qui y résident. Alors donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons travaillé dans un premier temps à faire en sorte que la radio se mette à l'écoute des populations, des communautés. Qu'est-ce que les populations veulent entendre? Ça a été le premier travail. La grille des programmes que nous élaborons doit répondre aux aspirations des populations de Yopougon. Nous avons des animateurs en langue. Nous avons, bon, on n'a pas pu prendre toutes les langues, toutes les ethnies.
Vous avez les principales.
On a les principales. Mm-hmm. Mais comment s'est fait le choix de ces animateurs en langue? Ces ethnies sont regroupées dans des grandes associations. Et nous nous sommes rapprochés de ces associations-là. Trouvez-nous quelqu'un en qui vous vous reconnaissez. Et nous lui donnons la formation qu'il lui faut, la formation en animation radiophonique. Donc, à telle enceinte que quand cette personne lance un message de paix et de cohésion, les populations, les communautés s'y reconnaissent là, déjà. Et à côté de cela, nous avons des clubs d'écoute dans tous les sous-quartiers de Yopougon. Ce sont des passionnés des radios que nous avons identifiés, à qui nous donnons de petites formations, voilà, comment écouter un programme radiophonique. Voilà, donc ces personnes-là nous font très souvent des suggestions. Voici ce que nous, on souhaiterait entendre sur la radio. La radio a un rôle d'éducation, de sensibilisation, de divertissement bien sûr, mais d'éducation surtout. La radio peut travailler à changer le comportement des populations. Mais quel type de population voulons-nous sur, voulons-nous éduquer? Quel type de population voulons-nous que nos communautés puissent ressembler? Donc, la radio travaille permanemment à cela. Nous ne faisons pas la grille des programmes que nous élaborons de façon permanente. Comme je l'ai dit tantôt, la grille répond aux aspirations des populations. Qu'est-ce que les populations veulent? Dans le traitement de l'information, aucun média ne peut se passer aujourd'hui du traitement de l'information. Mais de quel type d'information a besoin la radio communautaire du Yopougon? La proximité. Dans notre environnement immédiat, de quoi on a besoin? C'est vrai, l'information au plan international, au plan national, ça vient, mais il y a d'autres médias spécialisés dans la diffusion, dans le traitement de ce type d'information. Mais une radio communautaire, comme Radio Yopougon, il y a une panoplie de sujets qu'on peut traiter à Yopougon. La paix. Nous avons cet effet à l'approche des élections de 2020. Nous avons initié une caravane à travers Yopougon. Une caravane avec certains partenaires. Une caravane et nous avons identifié certaines personnes, certains acteurs de la crise post-électorale 2010. Mais nous avons dit, mais écoutez, avec vous, nous allons faire des émissions publiques. Vous allez parler à vos populations. Vous allez parler à la population. Et nous allons diffuser cette émission. Vous allez expliquer ce que la guerre vous a causé comme tort et vous allez expliquer ce que la paix peut nous apporter. Et ça a été une réussite. Des gens qui avaient peur de sortir, mais sortaient. Et ces personnes faisaient des propositions. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions vivre ensemble? Les solutions n'étaient pas venues d'ailleurs. Mais c'est ensemble, avec la communauté elle-même, que des propositions sont faites. Des gens qui disent, mais écoutez, moi je pense que pour que nous vivions en paix, voilà ce que nous devons faire. Lui-même, il établit sa règle. Dans cette démarche participative, nous avons réussi à sillonner pratiquement tous les sous-quartiers de Yopougon. L'émission a duré pratiquement un an. Donc, ça a été vraiment un succès.
D'accord. Donc, voilà. Gérard Guédégbé, sur le rôle de la radio dans la prévention des conflits et de la consolidation de la paix.
Moi, si je regarde, ayant pris à mon compte tout ce qui a été dit par mes aînés ici, c'est voir un peu la radio comme instrument de la paix, c'est voir un peu le positionnement de la radio aux trois phases du conflit, qui est, je vais dire, l'opposition à la paix. Quel est le rôle de la radio dans la prévention d'un conflit? Quel rôle la radio peut-elle jouer lorsque, par malheur, un conflit éclate? Et quel rôle de réparation ou bien de cohésion, de favoriser plutôt le vivre ensemble, une radio peut jouer dans la phase post-conflit? Et quand on regarde un peu la radio sur ces trois éléments, sur ces trois phases d'un conflit, on voit que la radio a un rôle essentiel, comme on l'a dit. Dans la phase préventive, je pense que la question est beaucoup plus elle n'est pas très visible. Parce que, comme on le dit, on peut prévoir un conflit à l'aune d'un certain nombre de faits, de manifestations, mais il est difficile de dire à tel jour quand un conflit peut s'éclater. Donc, souvent, le rôle de la radio devient, je peux dire, beaucoup plus difficile dans la phase préventive. Parce que c'est en ce moment où il faut faire un travail de fourmi pour détecter les foyers potentiels de conflits, et voir quel rôle l'acteur de la radio peut jouer pour éteindre ces petits foyers-là. Maintenant, dans la phase de développement du conflit, c'est aussi difficile parce que il faut savoir jouer avec non seulement les mots, les susceptibilités, corriger les perceptions, parce que le rôle du conflit, c'est quoi? Les acteurs, les protagonistes vont montrer que peut-être c'est l'autre qui est minoritaire ou bien il est le méchant, il est l'ennemi, et quel rôle la radio a joué? Est-ce que la radio doit amplifier ce courant de pensée ou bien la radio doit donner une autre perception de cette personne qui est peut-être diabolisée, déshumanisée? On a vu un peu les exemples qui sont autour de nous. Pour dire que ça soit pendant la phase préventive ou pendant le conflit, le rôle de la radio est primordial. Maintenant, la phase post-conflit reste aussi délicate parce que là, maintenant, il faut reconstruire tout ce qu'on a cassé pendant le conflit. On a cassé des liens familiaux.
On a cassé des liens entre les communautés, on a détruit des institutions de la République. Et maintenant, pendant la phase post-conflit, la radio doit maintenant se positionner en défenseur de ces institutions, de la cohésion des populations. Et je peux dire que si on regarde un peu ça, là où moi je trouve, et puisque nous sommes là pour en parler, là où moi je trouve le grand défi, c'est dans la prévention. Parce qu'il faut tout faire pour que les conflits ne s'éclatent en réalité. Je peux dire que c'est pour moi le défi le plus important. Comment faire en sorte aujourd'hui, que ce soit dans la formation, dans le renforcement des capacités des radios, pour que ces radios puissent vraiment jouer leur rôle dans la phase préventive d'un conflit qui constitue, je veux dire, l'essentiel, c'est-à-dire maintenir la paix.
D'accord, je pense qu'on aura le temps d'y arriver, hein, parlons de défis. Sangaré Yoro, comment est-ce que vous pensez que les radios puissent s'entraider pour préserver la paix? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est le cas déjà?
Ah, je pourrais dire tout de suite oui. Ah ben, toutefois aussi sous le contrôle de M. Diomandé qui est membre du conseil exécutif de l'Union des radios de proximité. Je crois que ça c'est déjà une plateforme où les radios se retrouvent. Mais je crois aussi qu'il y a des projets qui ont amené les différentes radios de Côte d'Ivoire à travailler ensemble sur la question de la paix, sur la question de la cohésion sociale, souvent aussi avec l'aide de certaines organisations internationales, des ONG, qui ont appuyé ces initiatives-là, et donnant aussi l'occasion aux radios de pouvoir s'investir, de pouvoir travailler aux questions de prévention des conflits et des questions de restauration de la cohésion là où ça a été mis à mal. Maintenant, les radios elles-mêmes, il y a toujours des échanges sur ces questions-là pour pouvoir maintenir un climat de paix. Voilà.
D'accord. Demandez, on le disait, vous êtes membre du bureau exécutif de l'URPCI. Qu'en est-il par rapport au partage d'expériences entre radios de proximité?
Il faut dire que l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire travaille beaucoup à cela. Cette union a compris que ce n'est pas du tout facile pour une radio de capter certaines opportunités. Mais la fêtière des radios, l'Union des radios de proximité, qui regroupe en son sein près de, à ce jour, nous sommes à un peu plus de 160 radios, réparties sur toute l'étendue du territoire national. Alors, cette fêtière-là a cette possibilité de capter des opportunités. Ça peut être des opportunités de financement, de projets, des opportunités de formation pour l'ensemble des radios, pour l'ensemble de ses membres. Voyez, aujourd'hui, pour obtenir un financement ou bien rechercher un projet, on va demander que la radio ait une certaine structuration. Mais quand elle n'est pas capable de remplir ses exigences, ben, l'URPCI joue valablement ce rôle-là. Donc, récemment, nous étions en séminaire avec le bureau. Mais pour cette année 2023, il y a une panoplie de formations. Anciennement, l'URPCI formait les animateurs, les producteurs de radio, mais sous le leadership du président actuel du conseil exécutif de l'URPCI, Eric Gou, a dit, mais écoutez, il faut que les formations puissent s'étendre désormais aux réalisateurs. Ils sont oubliés, alors que ce sont des acteurs importants dans le fonctionnement d'une radio. Donc, cette année, vous allez voir, donc, il y aura des formations pour les techniciens ou les réalisateurs des radios. Voilà. Donc, l'URPCI travaille beaucoup à cela. Il y a beaucoup d'opportunités qui seront captées. Aujourd'hui, vous allez voir avec l'Agence de soutien et de développement des médias qui a ouvert ses guichets à l'ensemble des radios aujourd'hui. Mais c'est vrai, le guichet est ouvert, mais est-ce que tout le monde peut s'y rendre? Est-ce que toutes les radios peuvent s'y rendre? Mais celles qui ne peuvent pas s'y rendre, l'URPCI peut jouer ce rôle-là. L'UPCI peut capter des opportunités de formation, voilà, surtout. Les radios ont beaucoup besoin de formation. Vous voyez, dans la prévention des conflits, il faut de la formation. Dans le maintien de la paix, de la cohésion sociale, il faut de la formation. un journaliste, un animateur qui n'est pas formé, il représente un danger pour ses auditeurs. Surtout que dans nos médias, je l'ai dit tantôt, la radio c'est un média très sensible. Mais un média très sensible, dans ce média, tout est bon à noter, tout est bon à enregistrer, mais tout n'est pas bon à diffuser. Vous diffusez la moindre fausse information, mais le résultat ne se fait pas attendre sur le terrain. Donc il est très facile, on peut facilement déclencher une crise à travers un message radio. Donc il faut beaucoup de formation au niveau des radios pour le maintien de la paix, pour le maintien de la cohésion sociale.
Alors vous abordez justement le volet des défis. Parlons de la formation. À quels défis sont confrontés les radios en Côte d'Ivoire de façon générale?
Mais la formation, les radios ont besoin de formation. Les acteurs des radios ont besoin de formation. Mais aussi, les acteurs des radios ont besoin de moyens. Mais aujourd'hui, vous allez trouver, même dans les radios, communautaires, où c'est la communauté même qui était censée animer la radio, mais ce sont des jeunes diplômés qui viennent aujourd'hui animer ces radios. Mais ces jeunes diplômés, la radio, ce n'est plus une passion, ça devient un métier. Il vit de ce métier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on vit de quelque chose, ça dit on en tire tout, on doit en tirer le maximum de bénéfices. Donc ce n'est plus de bénévolat que les animateurs, que les acteurs des radios doivent faire. Il faut les soumettre à un salaire. Ça, c'est important. Même si c'est une radio communautaire, mais cet acteur, il faut le soumettre à un salaire. Mais là, ce n'est pas le cas parfois. Ce sont des difficultés que les radios ont. Aucune radio de proximité, aucune radio communautaire pratiquement n'échappe à cette règle. Ce sont des problèmes existentiels. Même pour le fonctionnement, c'est tout un problème. Et nous osons croire que l'État va nous aider à trouver une solution à cela. D'accord. Créer une radio aujourd'hui, on doit plus se lever et créer une radio. Parce que j'ai une idée de radio, je crée la radio, bon voilà. Mais il faut penser automatiquement à son fonctionnement. Comment tu vas faire fonctionner cette radio?
Il faut les moyens
moyens qui vont avec. Vous êtes dans une localité où il n'y a même pas d'opérateur économique. Vous dites que vous allez capter de la publicité, il n'y en a pas. Mais comment vous allez faire tourner la radio? Ce sont autant de questions qu'on doit se poser aujourd'hui avant de se lancer dans ce projet-là. Ça devient un business communautaire. Mais dans le business communautaire, ce n'est pas du volontariat seulement. C'est même la guerre a des limites. À plus forte raison, le volontariat.
D'accord. Merci beaucoup, Diomandé Nza. Sangare Yoro.
Oui, sur la question, je crois que à la suite de M. Diomandé, j'aurais peut-être dit qu'au niveau des radios, il faut peut-être repenser le modèle économique carrément des radios en Côte d'Ivoire. On a créé des radios pour l'aspect de diffuser, mais comment cette entreprise, comment cette activité doit vivre et même survivre? Il faut penser aussi à la gouvernance dans ces radios. Il parlait tout à l'heure des ressources qu'il faut chercher à capter. Mais une fois qu'on les a, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a le peu qui est là, comment on l'utilise? Comment on l'utilise pour le bien? Est-ce que ces radios-là disposent de structures, d'une organisation qui leur permettent d'assurer un bon fonctionnement avec la traçabilité, avec des plans de développement? Est-ce que c'est le cas? Tout à l'heure, avant l'émission, nous en parlions. On voit quelquefois vraiment une gestion de... En tout cas, qui ne cadre pas avec la radio. Je n'ai pas dit autre chose. En même temps aussi, il faut pouvoir arriver à la mobilisation des communautés autour de la radio. Voilà. Donc, en termes de défis, c'est ce que je vois. Les radios se créent par la volonté d'une personne ou d'un petit groupe, Et la communauté, un matin, voit quelqu'un qui est en train de monter un mât, le pylône. Quelques jours après, on a une fréquence. Et puis, bon, c'est la radio de chez nous. Mais en même temps, c'est la radio de X, c'est la radio de Y qu'on regarde. Et après, on regarde aussi son appartenance, etc. Et finalement, elle est communautaire que de nom. Mais en réalité, cette mobilisation n'est pas effective. Cette implication des communautés depuis le début dans la gestion, ne serait-ce même qu'au niveau des comités consultatifs, par exemple, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il faut vraiment voir le fonctionnement de nos radios, la gestion qui est faite et aussi la capacité à rechercher les ressources, à s'inventer, à se réinventer, ne pas marcher dans les sentiers battus, parce que chaque jour, c'est de nouveaux médias, c'est de nouvelles radios qui voient le jour, donc l'environnement devient de plus en plus concurrentiel. Voilà, pour ajouter aux points qui ont déjà été évoqués en termes de défis.
D'accord. Gérard Guédébé, vous parliez tantôt des défis.
Oui, bon, à part...
Est-ce que vous avez autre chose à ajouter?
À part tout ce qui a été dit, je pense que les radios ont aussi un défi de contenu de qualité aujourd'hui. Et cela découle de la qualité aussi des ressources humaines et aussi du modèle managérial de ces radios. Est-ce qu'on a aujourd'hui des directeurs de programmes radio qui sont formés à ça? Ou bien c'est des professionnels qui accèdent au programme. Et donc la question de la formation est liée aussi au défi de contenu. On parlait tout à l'heure de la question du modèle économique. La question du modèle économique va se résoudre lorsque la radio va davantage conquérir maintenant ses lecteurs, et, ses auditeurs et auditrices. Pour la simple raison que si les auditeurs et auditrices ne sont pas accrochés au programme de la radio, au contenu de la radio, il sera difficile pour la radio d'aller capter de la publicité. Et donc, la question du contenu aussi, pour moi, constitue un défi important. Monsieur Sangaré a noté la question du modèle économique. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est le casse-tête chinois que nous avons avec les radios. Comment faire maintenant pour réinventer un modèle économique qui va avec la transformation digitale de nos entreprises, que ce soit entreprise de presse ou entreprise. Donc la question est vraiment sur le tapis, et j'estime que si on arrive à repositionner la radio par rapport à ses auditeurs, on a une possibilité de faire en sorte que la radio continue de jouer le rôle qu'il joue.
D'accord. Demandez à Enza.
Merci beaucoup. Je crois que tout à l'heure, M. Sangaré qui disait, parlant de modèle économique, il faut réinventer ce modèle économique. La radio communautaire, son rôle, c'est pas de faire quelque chose pour la communauté, mais c'est d'amener la communauté à faire quelque chose pour elle-même. D'amener la communauté à prendre conscience de son existence. Mais quand on le fait, quel type de modèle économique, cette radio choisie. Je vais prendre un cas, les radios des collectivités par exemple. Quand vous prenez le nombre des radios en Côte d'Ivoire, les radios de communauté sont les plus nombreuses. Mais comment fonctionnent ces radios de communauté et ces radios de collectivité? Mais de loin, on pense que ce sont des radios qui ont pratiquement tout, mais c'est difficile. Moi, je crois que le régulateur devait se pencher beaucoup plus sur cet aspect-là. Avant de créer une radio, il faut avoir un business plan. Qu'est-ce que tu dois faire? Et pratiquement toutes les radios font la même chose aujourd'hui. Vous allez dans une ville où il y a 5-6 radios. Vous avez le même programme. Mais comment vous pouvez rentabiliser ces médias? Dans les radios des collectivités, aujourd'hui, il y a un véritable problème. Dans des collectivités, on vous dit, mais écoutez, l'acteur des radios qui est là, on ne peut pas le prendre dans le cadre organique des emplois de la collectivité parce que. J'ai dit, mais pourquoi? Mais pourquoi vous avez créé la radio? La radio est un instrument de paix, un instrument de cohésion sociale, indispensable à la vulgarisation des activités de l'équipe municipale ou bien de l'équipe en place. Mais comment vivent les acteurs de ces radios? Soit, dans, ça c'est une proposition. À défaut de, leur, comment dire, de les intégrer dans le cadre organique des emplois, on peut transformer ces radios-là en des sociétés à responsabilité limitée, par exemple, auxquelles les collectivités peuvent apporter une subvention conséquente. Ça peut les aider. Vous allez dans des radios, mais ça ne vous donne même pas l'envie de pratiquer ce métier. Pourtant, ce sont des talents, des jeunes gens qui ont le bac plus 5, mais qui sont dans des radios, mais qui ont à peine 20 000 francs par mois. L'URPCI fait tout le temps ce débat. Elle dit, il faut convaincre les promoteurs des radios. Vous voulez créer une radio, qu'est-ce que vous avez pour son fonctionnement? Un animateur qui n'a même pas le minimum vital, comment voulez-vous qu'il puisse vous donner une information assez équilibrée? Surtout que lui-même, il n'est pas équilibré dans le ventre. Donc vraiment, au nombre des défis, il faut cela. Il faut réinventer le modèle économique des radios. Voilà. Nous avons un rôle de prévention, cette prévention ne peut pas se faire si ce modèle économique n'est pas travaillé.
D'accord. Alors, Sangaré Yoro, on va revenir quand même à votre parcours. Hein. On sait qu'à l'initiative de CFI, Canal France International, vous avez conduit des missions de diagnostic et de renforcement des radios en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Bénin. Alors, globalement, on est un peu curieux de savoir comment fonctionnent ces radios d'un pays à un autre.
Oui, effectivement, il y a une grande différence. Il y a ces pays que vous avez cités, pratiquement le Burkina par rapport à la Côte d'Ivoire, il y a une culture de radio qui est beaucoup plus ancienne. Et il y a quand même, il faut le dire, je n'ai pas été dans beaucoup de radios, travaillé particulièrement dans une radio dans le nord à Waikouya, la radio La Voix des Paysans, à Ouaga aussi Liberté FM. Voilà, j'ai eu aussi un séjour à Savane FM, juste quelques heures là-bas. Mais l'environnement des radios a quelque chose dont nous pouvons nous inspirer en termes d'organisation, en termes de suivi des émissions. De suivi des radios au niveau de la gestion et aussi comme ce Gérard Guédégué disait dans le contenu des émissions. Vous verrez que dans ce pays par exemple que j'ai cité beaucoup d'émissions se font dans la langue locale, donc directement accessibles dans des thèmes que comprennent plus facilement ces populations. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'époque, j'aimais bien dans la mère ou le père de Radio de la Paix, quand c'était ONU CFM, on avait des informations en langue et des informations. Moi, je me rappelle de ma mère qui fait plus de 80 ans, qui ne parle pas français et qui, à l'époque, il y avait l'histoire du Darfour, mais qui était presque au même niveau d'information que moi, qui me posait la question, c'est où le Darfour, c'est quoi, etc. Mais parce qu'on n'était plus dans l'information typiquement communautaire, pour dire que, tel est parti à l'étranger, il est venu hier soir. Bon, il y avait quelque chose. Donc, c'est peu pour ajouter à la question de contenu. Ici, en Côte d'Ivoire, pour les radios que j'ai parcourues, je l'ai évoqué un peu, la question de la gouvernance, la gestion des radios, pour parler plus directement. Il n'y a pas de carrière de profil de carrière. Le mode de recrutement il n'est pas connu. Le mode de la motivation, comment on gère ce personnel, les ressources. Vous avez une personne quelquefois, il est le directeur, il est le comptable, il est le caissier. C'est vraiment l'homme orchestre parce que c'est sa radio. Vous comprenez? Alors, quelle est la place de la communauté dans ce cas-là? Quelle est la place? Parce qu'on dit que c'est la radio communautaire. C'est la radio de notre communauté, de notre village et tout. Mais en fait, c'est quelque chose de privé qui dit pas son nom. Donc, il faut qu'en réalité, tout ceci soit repensé pour voir comment on intègre ces populations dans l'animation de la radio. Je ne vais pas dire gestion parce qu'on va avoir côté argent, pas forcément, ce n'est pas ce qu'on demande. Mais la mobilisation communautaire est indispensable. Il faut que la communauté porte ce projet. Donc, depuis l'étape de projet, il faut l'impliquer. Il faut l'impliquer. C'est ça, radio. C'est comme ça qu'elle va se reconnaître, qu'elle va s'impliquer, qu'elle va participer. Et quand surviennent des défis, qu'elle se mobilise, elle se reconnaît dans cette radio et elle cherche des efforts à faire pour sauver la radio ou pour l'amener à un autre niveau. Moi, je suis sur des plateformes avec d'autres collègues. Je vois ce mois-ci, par exemple, dans une radio au Bénin, à la radio qui se trouve à Bembéréké, avec des personnes qui viennent avec des ignames. Et monsieur, il vient avec sa récolte, il a un panier d'oranges qu'il apporte à la radio, c'est son soutien. Et on monte des auditeurs qui viennent, je suis venu avec 2500 pour soutenir la radio. Ça paraît insignifiant quand on regarde au montant, mais quand on regarde à la motivation de cet individu, qui certainement, quand vous regardez ses ressources, les 2500 auraient été fort utiles pour lui et sa famille, mais qui s'en prive et qui vient témoigner de son soutien à cet instrument qui est là pour le développement de sa communauté. C'est ça aussi qu'il faut qu'on recherche. Et ne pas simplement voir nos radios comme la boîte à musique, le temps que j'aille prendre mon téléphone pour écouter, bon, on voit ce qui se passe, sensibilisation, ces messages de sensibilisation, cohésion sociale, sensibilisation et tout ça. Voici des choses qu'on voit et pour lesquelles vraiment qu'on parle. Alors, juste pour terminer aussi, je me demandais qui parlait un peu de la rémunération et tout ça, mais tant qu'on n'a pas l'argent, ça va être difficile de partager. On est d'accord là-dessus. Mais quand vous voyez que il n'y a pas l'argent, mais le peu qui descend, ça s'évapore avant même que ça n'atterrisse, c'est que vous voyez un seul individu qui a...
Ça
c'est pas pour faire le procès des radios, mais c'est un peu voir un peu ce qui se passe et comment on peut apporter des améliorations. Voilà. Mais il faut dire que aussi tout n'est pas mauvais et ces radios jouent un grand rôle aussi. Il faut le reconnaître.
Parlons justement de grand rôle. Demandez Enza. Radio Yopougon a la réputation d'être une radio école.
Bien sûr. Radio Yopougon a formé énormément de journalistes talentueux, d'animateurs. Je crois que... En tout cas, c'est une radio-école. C'est une radio-école. Vous avez des personnes qui y sont aujourd'hui depuis près de 20 ans. Mais le gros défi que nous avons, comment maintenir ces valeurs-là sur place ? La radio qui est arrimée au cadre organique des emplois de la mairie. Mais quelqu'un qui fait 10 ans avec ce même salaire, étant donné que le plus grand désir de tout individu est d'accéder à un plus haut bonheur, si on lui propose mieux ailleurs, mais il s'en va. Vous avez vu, Radio Yopougon a été la première radio à participer au Super Prix Yéboni. On avait une vision. Voilà, ben écoutez, on a participé. Ben, on a remporté le prix. Et depuis cette date-là, en 2017, nous sommes chaque année, nous sommes à ce rendez-vous. On revient avec au moins un trophée. Mais les personnes qui remportent ces prix, est-ce que nous avons les moyens de les garder? C'est ça un problème. Mais vous dites, vous allez voir l'autorité, ben écoutez, ben vraiment, telle personne, il faut qu'on fasse tout pour la maintenir dans notre effectif. Ben écoutez, la personne vous dit, ben écoutez, moi, on m'a proposé mieux ailleurs. Mais si on avait revu le modèle économique des radios, la radio devait être capable de dire, ben écoutez, ce qu'on t'a proposé ailleurs, nous, on peut le faire. Mais dans le cas actuel, on ne peut pas le faire. C'est de fort mauvais gré que nous voyons nos animateurs partis, nos meilleurs journalistes partis. C'est dommage. Je disais à un directeur d'une radio, il dit, mais vous allez nous payer des droits désormais. Parce que nous formons énormément de journalistes pour vous. Voilà. Mais il faut dire que nous avons un esprit, voilà, nous avons un esprit qui est cher à nous, la chaîne de toutes les générations. Nous mettons beaucoup l'accent sur les productions radiophoniques. Voilà, donc même les étudiants qui viennent, on se dit, mais vous avez, on a un objectif, tu es un étudiant, tu viens faire ton stage à Radio Yopougon, tu as tout au plus 2 semaines pour pouvoir faire une acquisition de voix. Ça, on ne vient pas te dire, ben, comme tu es un stagiaire, voilà, tu es juste là pour découper les dépêches ou ben machin. Non. Il faut travailler, c'est la pratique.
D'accord. Merci de demander, Anza. On va terminer notre sujet de discussion. Gérard Guédébé, comment est-ce que vous voyez l'avenir des radios aujourd'hui?
Bon, les radios, je pense que sont certainement en phase de transition, puisque nous sommes avec le numérique, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont secoués, donc la radio subit certainement les mêmes turbulences. Mais je trouve que la radio, peu importe ce qu'on dira, ne va pas certainement perdre son positionnement ou son niveau d'influence dans le futur. Les défis auxquels nous faisons allusion ce matin, le défi du modèle, le défi du contenu et la question de la gouvernance des radios, je pense que ce sont des défis qui font travailler les personnes qui s'intéressent à la radio. Et je peux vous dire que la communauté reste toujours attachée à la radio. Et c'est ça qui, pour moi, constitue une lueur d'espoir. La communauté reste toujours attachée à sa radio. Et maintenant, je pense que le défi de ceux qui sont praticiens ou animateurs ou, je veux dire, gestionnaires des radios, c'est comment maintenir cette relation de confiance avec les communautés. Parce qu'à un moment donné, si la communauté ne retrouve plus en la radio cette confiance qu'elle lui a donnée, je peux dire presque les yeux fermés, elle va commencer par chercher mieux ailleurs. Mieux ailleurs, ce sera certainement sur notre téléphone. Et là, avec tout le lot de désinformations qui s'y trouvent, vous voyez un peu à quoi ça peut constituer aussi une menace pour la paix. Le fait qu'on n'ait pas un médiateur de qualité comme la radio pour pouvoir aussi tempérer cette vague d'informations qu'on a sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas mauvais, mais et qui pose un réel problème de qualité. Donc la radio a un bel avenir, mais il faut qu'on y travaille de façon très sérieuse et davantage faire en sorte que les animateurs, je crois que c'est une question qui a été occultée, merci de le rappeler, mais que ceux qui animent les radios puissent vraiment sentir qu'ils font un métier qui les valorise au jour le jour.
D'accord, je vous remercie. Merci. Demandez, Anza.
Mais pour parler de la transition, il faut changer de paradigme. Nous sommes à l'ère du numérique. La radio restera cet instrument puissant, ce média puissant. Parce que, contrairement à la télévision ou à d'autres supports, ou à d'autres médias, on n'a pas besoin de gros équipements pour faire une radio. Voilà, vous pouvez vous installer quelque part, là, hisser une antenne, et puis voilà, vous émettez. Donc, fort de cela, la radio restera toujours ce média puissant, facile d'accès. Mais le basculement numérique ne va pas... La radio n'y échappera pas. De plus en plus, on a de la radio filmée. On nous dit, ben, écoutez, on ne fait plus qu'écouter la radio. On regarde la radio. Ça paraît... Mais écoutez, vous faites une radio, vous animez une émission, et puis bon, les auditeurs qui ont leur téléphone portable, qui ont leur smartphone, ils vous suivent en direct. Donc, il faut changer cela. Notre façon d'animer aussi, il faut changer tout cela. Parce qu'on n'écoute plus la radio comme on l'écoutait il y a 10 ans. Les gens ne prennent plus leur poste transistor, puis s'assoient là, bon, écoutez, c'est l'heure des émissions, viens, je m'assois. Non. On écoute désormais la radio en faisant autre chose, soit en train de conduire, soit en train de faire quelque chose d'autre en tout cas. Donc, il faut changer notre... Il faut tout changer. Il faut tout changer, notre façon d'animer. notre façon de faire fonctionner les radios, surtout, et mes prédécesseurs l'ont dit.
Aussi.
Voilà. Et tout cela, ça a une incidence sur le vécu des radios, les équipements. Parce que quand vous devez basculer au numérique, il faut changer les équipements. Il faut trouver, de facto, des moyens. Rien ne peut se faire sans les moyens. Il faut changer notre façon, notre perception des radios. Qu'est-ce que nous voulons faire? Vous avez une idée de radio? Vous voulez créer une radio? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Voilà, l'idée seule ne suffit plus. Comment pérenniser cet outil-là? C'est indispensable dans tout ce que nous faisons. La diffusion d'un message, la sensibilisation. Mais on donne même des cours sur nos radios, on donne des cours, on renforce les capacités des élèves. Le gouvernement, avec le ministère de l'Éducation nationale, a lancé son programme de formation, formation en ligne ou formation à travers les ondes des radios. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on doit reprendre. Le défi, il est énorme. Le défi, il est énorme.
D'accord.
Surtout la formation et, changer le modèle économique des radios.
D'accord, je vous remercie, Diomanté Anza. On va terminer avec vous, Sangaré Yoro.
Ok, merci. Je risque de reprendre quelques points qui ont été évoqués. Voilà, je vais en parler un peu parce que j'estime que c'est important. On a beaucoup parlé de la convergence avec la question du numérique. Je crois que par moment on se dit c'est peut-être une menace pour les radios, mais non, c'est une opportunité. C'est plutôt une opportunité. Le numérique et les différents réseaux sociaux ont fait de la radio aujourd'hui peut-être le média le plus multi-support, puisqu'on peut l'écouter sur différents supports. Ça permet aussi de rapprocher des auditeurs, d'aller chercher encore des auditeurs beaucoup plus loin que les ondes n'auraient pu les toucher. Mais en termes de défis aussi, je reprends là l'idée de M. Gérard Guédéguez sur le contenu, la qualité du contenu des émissions qui doivent être proposées aux auditeurs, aux auditrices. Et la question de la formation du personnel, ça doit être permanent. Une remise en question, une remise à niveau qui puisse avoir ces occasions-là de pouvoir se former. Vous avez parlé de Calan Academy. Je peux en parler parce que comme c'est gratuit, il n'y a pas de publicité.
Moment,
en tout cas, c'est en ligne et nous formons des directeurs de radio ou des personnes qui aspirent à cette fonction. Peut-être qu'ils sont déjà adjoints ou chefs de service dans les radios. Il y a seulement un test qu'on fait parce que c'est avec le soutien de France Media Monde et avec une ONG qui est basée au Bénin, à Parakou, qui est le CECID. Voilà. Donc, nous sommes à la deuxième promotion. Voilà. Je crois que ce sont des opportunités aussi qu'il faut saisir. Il faut également oser. Voilà. Mais en interne, les radios aussi doivent travailler à une meilleure gestion. Vraiment, parce qu'il y a des choses qu'on voit, mais qui méritent d'être corrigées. Et je crois que pour terminer, le dernier point, c'est d'assurer ce que j'appelle aussi l'adhésion de la communauté au projet qu'on fait, les impliquer pour soutenir la mobilisation communautaire très importante. Voilà ce que je pourrais ajouter à ce qui a déjà été dit sur la question.
D'accord, je vous remercie. C'est la fin de notre espace de discussion aujourd'hui sur la Journée mondiale de la radio, célébrée chaque année le 13 février. Avec nos invités, nous avons particulièrement planché sur la radio comme instrument au service de la paix. Pour l'occasion, nous étions avec Sangaré Yoro, homme de médias, par ailleurs chargé de cours en management des équipes et management éditorial à Calan Academy. Précisons que c'est une plateforme en ligne des responsables de radio communautaire d'Afrique. Également sur notre plateau, Diomanté Anza, directeur de Radio Yopougon et membre du bureau exécutif directrice de l'URPCI, Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Gérard Guédébé, expert en stratégie, médias et communication, était aussi en studio avec nous. Encore merci à vous d'être venus, chers invités, et surtout, très bonne célébration de la Journée mondiale de la radio.
Merci.
C'était Sujet de discussion.